Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, je reçois un phénomène. Une artiste autant aimée par le public qu'elle est encensée par ses pairs. Ah oui, c'est rare. Et tout le monde a raison, car Isabelle Nanty est à la fois une belle personne et une comédienne à l'inventivité prodigieuse. Mercredi sort en salle un film important. Un film à l'affiche duquel se trouvent Gérard Depardieu, Assad Amène et Isabelle Nanty. Ce film a pour titre Faïm. Il est signé Pierre-François Martin Laval et Isabelle Nanty. Et mon invitée cet après-midi, on va parler avec elle à la fois de cette folle aventure et de son chemin de vie. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Elle attendait sagement devant ce flot de paroles. Bon, je vais continuer d'être bavarde parce que j'ai eu un choc avec ce film qui m'a plus infiniment. Il y a des films comme ça qu'on porte vraiment longtemps en soi après les avoir vus, et Faïm est de ceux-là, car il nous parle d'espoir, d'exil, du poison que représente la peur de l'autre et du dépassement de soi. Bon, rapidement, le pitch. À 8 ans, Faïm doit quitter son Bangladesh natal, où il est menacé de mort pour la simple raison qu'il est un champion de jeu d'échecs. Faïm donc arrive avec son père en France, la France dont il connaît absolument pas la langue, et commence pour lui une vie de SDF sans papier dans les rues de Paris. Mais Faïm, petit génie des échecs, donc, va rencontrer un entraîneur qui est un homme de cœur, et 3 ans et demi plus tard, alors que l'expulsion va être appliquée pour Faïm, notre jeune SDF bangladais sans papier n'a qu'une solution pour échapper au désastre, devenir champion de France d'échecs. Elle est vraie, cette histoire, Isabelle Nanty.
Elle est vraie. C'est l'histoire du vrai Faïm qui a... Pef a regardé un jour une émission de Ruquier où il témoignait. Il venait de sortir un livre sur son histoire. Et Faïm, le vrai Faïm, est toujours là, en France. Maintenant, il a 19 ans. Il est en prépa HEC. Voilà. Et il parle parfaitement français. Il est complètement français. Mais il n'a pas encore la nationalité, ni même... c'est compliqué, hein.
Il a seulement une carte de séjour.
Il a une carte de séjour.
Alors qu'il a amené la France tout en haut du podium,
ouais,
en étant champion de France d'échecs, et puis un an plus tard, champion du monde
des scolaires. Ouais. Ah ouais, il est génial, hein. C'est un sacré mec.
Tout ça en étant SDF, sans papier. Alors, Isabelle Nanty, vous connaissez depuis toujours, bien sûr, le réalisateur de ce film, Pierre-François Martin Laval, dit Pef, qui était votre élève dans la classe libre du cours Florent. Est-ce que vous avez été la première avertie de son coup de cœur pour cette histoire absolument folle?
En tout cas, dès qu'il a eu fini d'adapter le récit, il m'a appelé et il m'avait réservé un rôle qui était en fait une compilation de 3 personnes ayant été importantes dans le parcours de Faïm. Et il en a fait une seule personne, qui est le personnage de Mathilde que je joue. Mais moi, ça ne m'a pas étonnée que Pef ait envie de faire ce genre de film, parce que je le connais depuis 30 ans, comme vous dites, et je sais qu'il est concerné, je sais qu'il est... C'est un homme extrêmement sensible. Et je me réjouissais à l'idée que sa poésie et sa drôlerie aussi servent un propos quand même assez politique. Mmh. Et une histoire aussi... tendre et violente à la fois.
Pour revenir à vous, dans ce film, vous incarnez effectivement 2 femmes très impliquées, l'une directrice du club d'échecs, et puis l'autre journaliste à France Inter, qui avait invectivé à l'époque François Fillon, Premier ministre, le jour de la compétition justement d'échecs, alors que Faïm risquait d'être expulsé et qu'on ne voulait pas, comme il n'avait pas de papier, ouais, le laisser participer à cette compétition qu'il a remportée.
Ouais. Ben oui, oui. C'est une auditrice qui avait été mise au courant de cette histoire par une alerte Facebook. Comme quoi, hein, les tout petits gestes qu'on fait peuvent devenir un grand geste, en fait. Et cette femme a osé appeler en direct François Fillon et l'alerter de ce cas. Donc, et ça a déclenché l'autorisation pour lui de rester sur le territoire français.
Alors, le jeune garçon qui incarne Faïm dans le film, Assad Amène, est bangladais, comme Faïm. Il ne parlait pas un mot de français quand le tournage a démarré.
Ouais.
Et il n'avait bien évidemment jamais joué la comédie devant une caméra. Comment, avec l'équipe, vous y êtes-vous pris pour que tout, miraculeusement, sonne juste?
Alors ça, c'est l'art de Pef. Hein. C'est Pierre-François Martin Laval qui était aux commandes. Ça lui plaisait aussi, cette histoire qu'il n'avait jamais jouée. Et bizarrement, comme son histoire quand même, l'histoire de Assad, et un peu identique. Il est venu rejoindre son père ici en France, etc. Oui. Il y avait quand même des résonances. Et puis, il y a quelque chose de beau dans l'idée que... Il y a le papa aussi qui joue, enfin, Misanour,
oui.
Joue aussi... il était cuisinier, lui, avant. Et en fait, je crois que ça nous a obligés, surtout nous tous, acteurs, actrices de métier, on va dire, à n'être qu'à l'écoute de l'humain, de ces personnes-là, de leur expérience propre, et d'être juste en accueil de ça.
Et puis alors, dans ce film, il y a celui que vous considérez comme le plus génial acteur de notre époque, et dont vous dites qu'il voit tout comme un scanner. C'est un ogre, un seigneur, une planète à lui tout seul. C'est Gérard Depardieu.
Ouais. Ah,
avec qui déjà vous avez joué trois fois, dans trois films.
Oui, oui, mais enfin...
Mais chaque fois, l'aventure est totalement différente.
Bah oui, on n'arrive pas en terrain conquis hein, avec Gérard Depardieu, C'est comme vous venez de le dire, c'est quelqu'un qui a traversé tellement de vies, tellement de pays. Il a épongé toutes ses impressions et il est comme une planète à lui tout seul, exactement. Il peut tout jouer, du coup, il peut tout ressentir.
Et mais pourquoi dites-vous que jouer avec Gérard vous fait peur, puisque vous l'aimez tant ?
Ben, ça fait peur parce que on peut pas mentir avec lui. On peut pas. On est mis à nu. Il voit tout de suite. La vraie personne qu'on est. Et donc, on ne peut pas le bluffer.
Isabelle Nanty, on ne sait jamais si le cinéma réellement fait progresser les mentalités, mais ce film-là, Fahim, pose les bonnes et vraies questions, c'est ça ?
Ben, en tout cas, moi je crois que le cinéma, il n'a jamais changé le monde. Il ne convainc que les convaincus, en général, il faut être honnête. Mais, quand même, parfois, il peut arriver qu'en étant ému par un film... Ça nous réinterroge sur l'état de notre cœur.
Voilà.
Et en l'occurrence, là, je crois que ben, ça interroge où on en est, chacun, avec la fraternité.
Je vous le confirme. Bon, on fait une pause, on retrouve tout de suite Isabelle Nanty.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, un tête-à-tête qui se poursuit entre Isabelle Morizet et son invitée, aujourd'hui l'actrice Isabelle Nanty, à l'affiche du film Fahim.
Pour croire, pour espérer, pour s'émerveiller, il faut aller voir Fahim, qui sort en salle mercredi, avec Gérard Depardieu, avec Assad Amen et Isabelle Nanty. Alors, chère Isabelle, vous dites, il y a des montagnes, du vent et des cascades en moi. Effectivement, votre maman était norvégienne. C'est un pays hypnotique, la Norvège. La nature y est singulière, avec ses fjords, ses montagnes verdoyantes, où les aigles sont rois, paraît-il. Je n'y suis pas allée, mais on m'a raconté. C'est un pays qui se mérite, le pays de vos origines.
C'est joli de dire ça, mais non, je pense qu'il se mérite. C'est un pays à protéger, c'est un pays à vivre, parce que une fois qu'on a vécu cette expérience de nature si forte, de granit, de vent, c'est très impressionnant la Norvège comme paysage et comme réalité. Ouais, maintenant moi j'y vais dans d'autres conditions, malheureusement sans mes parents oui. Et tout ça. Et ça m'est apparu très fort la chance que j'avais d'avoir un lien avec cette nature-là et ce pays-là.
Alors l'histoire d'amour dont vous êtes le fruit, Isabelle Nanty, elle est, il faut le dire, assez extraordinaire. On peut parler, pour votre mère, d'une passion dévorante qui a fait d'elle, à l'âge de 20 ans, une héroïne. Je vois ça comme ça.
Bah ouais, elle aimait mon père.
Oui, mais
donc
attendez.
Elle est venue le chercher.
Oui, non, mais c'est quand même incroyable parce que elle a, vous dites, vous résumez simplement, mais quand même, elle a tout quitté, sa famille, son pays, sa culture pour l'inconnu. Parce que votre papa était venu comme boucheron, n'est-ce pas, en Norvège.
Oui.
Il part, elle n'a plus de nouvelles oui. Pendant 2 ans. Donc elle ne savait pas si ses sentiments seraient payés de retour et si, au terme de ces 2 ans sans nouvelles, votre père l'avait pas oublié oui. Ou remplacé quand elle a pris sa petite valise
oui.
Pour traverser l'Europe
oui.
Et venir toute seule à 20 ans. Et rechercher son amour.
Ben oui. Il y avait beaucoup de non-dits dans cette histoire des 2 ans, en fait. Mais enfin, ma mère était assez fière quand même d'avoir écouté son instinct, et d'avoir travaillé tout l'été pour se payer son voyage, d'être venue en train jusqu'en France, et avoir prévenu très peu à l'avance en disant « j'arrive telle date ». Donc mon père est allé la chercher à la gare.
Elle a prévenu très peu à l'avance.
Ouais, ouais. Et quand elle est descendue du train, il n'a pas compris ce qui lui arrivait.
Bon voilà, votre maman était une
tornade blonde. La légende dit qu'elle était effectivement, elle avait son petit chignon tout blond et elle avait un tailleur rouge. Elle était très bronzée parce qu'elle avait travaillé tout l'été dans les champs pour se payer son voyage.
On ne voyait qu'elle sur le quai de gare.
Ah non, mais là, c'était l'apparition, quoi.
Bon, vous êtes donc né et avez grandi dans la Meuse, où votre père avait une usine de bois dans une campagne dessinée par des forêts, bien sûr, et puis par des rivières, et puis par des fermes. Je peux dire que vous avez eu une enfance rousseauiste ?
Ah oui, et d'autant plus que dans le village où on habitait, mon père était le directeur de l'usine, et tout le reste du village était ou des paysans ou des familles d'ouvriers de l'usine où était mon père. Et donc, moi j'ai vécu le milieu ouvrier et mon milieu privilégié à égalité en fait, avec la même perception. En fait, ça m'a appris à rencontrer les personnes. Je dois dire que je pense que c'est essentiellement ça qui m'a rendue forte.
Et puis, autour de ces personnes, il y a cette nature si prenante, parce que vous avez grandi à la campagne. Si enfant, vous avez demandé dans quel métier plus tard vous vouliez vous projeter, vous auriez répondu fermière, vraiment ?
À un moment donné, je voulais, ouais. Quand je rentrais de l'école le soir, j'allais travailler à la ferme en face de chez moi. Alors, je mettais mes bottes, mon cabic, et j'allais m'occuper des veaux, j'allais nourrir... Je les amenais chacun à leur maman. Et puis, je faisais la traite des vaches aussi, la traie. Non, mais j'adorais les
mais
odeurs.
Alors, Isabelle Nanty, comment dans cette enfance champêtre, loin de tous les artifices de la scène, comment avez-vous conçu l'idée, un beau jour, adolescente, de faire du théâtre ?
Parce que je devinais dans le pouvoir du théâtre ou du cinéma, c'était de transformer. Ces douleurs, de transformer les douleurs des autres aussi, et d'apporter un peu de joie ou d'émotion. Mais entre ce rêve-là et la réalité de ce rêve, il y a quand même un pas.
N'est-ce pas ? Il y a plein de défis à réaliser.
Ah oui, mais je n'avais pas imaginé que c'était ça qui m'attendait en fait.
Votre père qui dirigeait cette usine de bois, lui aussi avait rêvé un temps d'être artiste. Vous en aviez parlé ensemble de son rêve avorté ou pas?
Non,
trop
plus tard j'en ai parlé avec lui.
Ah oui?
Ouais, un jour je lui ai dit, tu sais, t'aurais été mon fils, t'aurais pas fait le métier que t'as fait. Il me dit, ah bon, j'aurais fait quoi? Ben, tu serais ou journaliste ou auteur. Et c'était vraiment un artiste, mon père. Il avait un verbe dingue, il avait une fantaisie, beaucoup d'humour, beaucoup de charme. Les gens l'adoraient. Et non, je pense qu'il aurait été plus heureux encore s'il avait été artiste. Parce qu'il avait vraiment ça et tout le monde le disait. Hein.
Alors, vous, adolescente, il paraît que vous étiez dyslexique. On va dire que ce n'est pas le plus court chemin qui mène vers le théâtre, la dyslexie, puisque ça entraîne des troubles de la lecture. Vous l'avez combattu comment, ça ?
Ah ben, instinctivement, je crois. D'abord, j'ai été chez des orthophonistes, une dame formidable qui s'appelait Madame Jabot. Mais ensuite, je me suis découverte aussi dyscalculi.
Oui.
C'est-à-dire est-ce pas qu'on dit dyscalculite
C'est-à-dire que les maths, c'était pas non plus très simple.
Non,
qu'on vous a exempté de cours de maths au collège.
En troisième, j'ai été dispensée.
Oui.
J'ai été dispensée de maths. C'était tellement incompatible avec moi. Et ensuite, j'avais aussi un peu de dyspraxie. C'était...
Et tout ça va donner donc une comédienne virtuose qui va signer des mises en scène, qui va travailler.
Mais moi, je me vis pas
comme
ça.
Les plus subtils, qui va.
Je me vis pas du tout comme virtuose et je me vis comme quelqu'un qui a eu du mal et qui a trouvé des stratégies. En fait, ce qui se dégage de ça, je n'en ai pas conscience. Mais par contre, ce dont j'ai conscience, c'est de l'effort que ça m'a demandé pour camoufler tout ça. Pour que quand je tournais sur un film, ça ne se voit pas trop qu'à partir du moment où on m'ajoutait un accessoire, il y avait mon texte qui partait. Que quand en plus on me...
Toujours aujourd'hui, Isabelle Nanty ?
Mais oui, toujours aujourd'hui. Toujours je mets un certain temps à ordonner dans mon cerveau les actes et la parole et les émotions. Et par exemple, Depardieu, lui, c'est à la première prise, il est là tout de suite. Et ça aussi, ça m'intimide, parce que moi, je sais que ça va mettre plus de temps, et que je vais lui faire perdre du temps, et que...
Bon, voilà. C'est le résultat qui compte. Europe 1. Mais de toute façon, on va continuer de dérouler le fil, parce que franchement, il vous a fallu beaucoup d'audace pour, à 18 ans, quitter la Lorraine, pour tenter l'aventure du cours Florent à Paris. N'est-ce pas? Quel défi quand on fait ça toute seule et si jeune. Alors on fait une pause et on retrouve tout de suite Isabelle Lanty.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Europe 1.
Il est tout juste 15h23, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite sur Europe 1, on retrouve Isabelle Morizet et son invitée, l'actrice Isabelle Lanty.
Alors Isabelle Lanty, on continue de dérouler le fil de votre histoire. Vous avez 18 ans, vous débarquez à Paris avec des rêves de théâtre, mais vous ne connaissez personne. Et vous avez, alors pour bien estampiller vos origines géographiques, vous avez l'accent de la Meuse, l'accent de Bar-le-Duc. Il était encombrant cet accent ?
Et un cheveu sur la langue.
En plus. Et ça donne quoi ?
Je suis arrivée à Paris, je parlais comme ça. Grosso modo, hein. Donc, c'était pas très sexy, hein. Moi, mes profs, ils m'ont dit, ben là, il faut au moins qu'il y ait un des deux trucs qui s'en aille, hein. Donc, j'ai d'abord travaillé le cheveu sur la langue. Et puis ensuite, l'accent est parti. Un petit peu. Mais il revient quand il y a des émotions.
C'est
il
vrai
revient. Ouais, et puis il est revenu quand j'ai joué dans Amélie Poulain et dans Les Tuches et Christiane Potin. On m'a demandé de retourner vers mes origines.
Bon, quelle est la première chose que vous avez faite à Paris, Isabelle Lanty ? Vous êtes inscrite dans les cours de théâtre ?
Oui,
ou bien vous avez d'abord trouvé des petits boulots pour assurer le gîte et le couvert ?
Ah non, j'étais pas douée pour les petits boulots.
C'est vrai ?
Moi, c'était mon rêve. Hein. Je me voyais galérer un peu, faire des petits boulots. Enfin, c'était absurde. Hein, mais... Donc, en fait, j'ai fait des petits boulots, mais au bout de 2 ans de cours, il y a Francis Huster qui m'a vraiment pris par la main et qui m'a... Alors, j'ai d'abord été... J'étais poursuiteuse sur un spectacle qu'il jouait.
Oui.
Éric Tarot et moi, on avait été choisis pour faire la poursuite sur son spectacle. Et puis ensuite, j'ai été machiniste sur Le Sablier, où j'avais un tout petit rôle au début du premier acte et du deuxième acte. Et le reste du temps, j'étais machiniste. Et puis après, j'étais assistante à la mise en scène. Donc ça, c'est ça mes petits boulots à moi. Mais c'était des grands boulots, parce que c'était avec des personnes incroyables. D'abord Francis Huster, j'ai appris vraiment mon métier avec lui. Ensuite Jacques Weber, ensuite... Quand j'étais assistante sur le CID, il y avait Jean Marais, il y avait Jean-Louis Barrault, enfin des noms que peut-être les gens ne connaissent plus maintenant, mais c'était quand même pour une petite jeune fille comme moi, c'était incroyable.
C'est Francis Huster qui vous a fait jouer Shakespeare.
Oui, c'était dans une adaptation qu'il avait faite absolument géniale de Richard III, et je faisais le petit duc d'York.
Alors, avant de raconter comment vous êtes devenu le prof historique, emblématique de la fameuse classe libre si prisée du cours Florent, je voudrais quand même que vous m'éclairiez sur une chose qui m'échappe, Isabelle Lanty. Je n'arrive pas à comprendre que vous ayez raté 2 fois le concours d'entrée au conservatoire, 2 fois le concours de l'école de la rue Blanche. Donc avec le recul, avec vos nombreuses nominations au César, au Molière, sachant par exemple que la Comédie Française vous a sollicité pour vos mises en scène, je voudrais savoir avec le recul ce que vous pensez de ces refus qui sont, quand on est très jeune, comme des coups de poignard.
Ouais. Et surtout, c'est, à l'époque, il n'y avait pas 36 chemins pour faire ce métier. Il y avait le conservatoire, la rue Blanche. J'ai aussi loupé l'école de Chéreau, 2 fois. J'ai aussi loupé l'école de Strasbourg. Et
vous aimez bien louper 2 fois ?
Ben, parce que
comme
je,
ça, on n'en
je
parle
retente.
Plus.
J'ai loupé 2 fois la classe libre aussi, de
non.
Chez Florent. Oui, et je l'ai eu la 3e fois. Et donc, ça laisse des traces de vous n'avez pas été choisi. Donc, ça veut sous-entendu, enfin, vous avez l'impression
vous
que vous ne valez
choisi,
rien.
Vous n'avez pas été choisi, mais vous deviendrez professeur de la classe libre.
Ouais.
Alors, justement, au départ, quand vous l'avez intégrée comme apprentie comédienne, bon, au cours Florent, dans votre promotion, j'ai envie de dire, il y avait Vincent Lindon, Agnès Jaoui, Thierry Mugler, Noémie Lvovsky, et il y avait Mylène Farmer.
Ouais.
Et vous dites que c'est une vraie actrice, Mylène Farmer.
Magnifique. Tellement de charme, de sensibilité, une sensibilité, c'était dingue. Je l'ai vue dans des ateliers, elle avait joué Josepha, une adaptation du film, elle avait joué Zézette dans
Le Père Noël. Mylène Farmer dans Zézette.
Oui,
là,
dans Le Père Noël est une ordure. Non mais elle est géniale, j'espère qu'elle va faire du cinéma maintenant.
Eh bien écoutez,
Ça serait vraiment bien parce qu'elle est magnifique.
C'est à vous de mettre en place le projet. Et puis il y avait Éric Ruff, l'actuel patron de la Comédie Française, n'est-ce
bien
pas, sur les bords du cours Florent à côté de vous.
Oui, enfin moi je l'ai pas eu comme élève, hein, Éric. Comme beaucoup de gens que j'ai croisés à ce moment-là qui démarraient, Éric Ruff, il était déjà ce qu'il est. C'était un artiste, il savait dessiner, il savait mettre en scène, il savait jouer, il sait tout faire, Eric. Et aussi, il est très, 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 très intelligent. Et ben, ce qu'il fait là maintenant à la Comédie Française, c'est exceptionnel.
Et en même temps, très érudit. Il y a 2 ans, de mettre en scène l'Hôtel du Libre-Échange de Feydeau.
Ouais, j'ai eu cette chance de pouvoir faire ça avec quand même Christian Lacroix qui a vraiment transformé mon rêve en réalité, avec une troupe exceptionnelle, parce que ce qu'il y a de beau dans cette troupe, ensemble, c'est exceptionnel, mais chacun est
déjà
exceptionnel.
Déjà, voilà. Ouais. Ouais. Je reprends le parcours, parce qu'il est étonnant, vraiment. Le boss du cours Florent, François Florent, a fait quelque chose d'unique avec vous. Parce que je dis que, effectivement, vous êtes devenu le professeur historique de la classe libre du cours Florent, mais quand même, j'ai appris qu'il vous avait viré 1 an avant la fin du cursus. Qu'est-ce que vous aviez fait pour qu'il vous vire et que 3 ans après, il vienne vous rappeler « Isabelle, deviens prof chez moi ».
C'est marrant parce qu'on en a parlé tous les deux, il n'y a pas très longtemps. Il ne se souvient absolument pas pourquoi j'ai été virée, et moi non plus. Je pense que j'étais un peu chiante. Je pense que je la ramenais un peu trop. Ma fierté, c'est d'avoir été virée en même temps que ma meilleure amie, qui est Gabrielle Dutruc-Rosset, qui était pour nous la fille la plus géniale du cours et tout, et qui est toujours mon amie. Et voilà, on a été virées toutes les deux parce que je crois qu'on avait fait chier sur une pièce. Enfin bon, bref. Et puis, effectivement, 3 ans plus tard, François Florent m'a invité à être prof.
À être prof.
Dans son école.
On fait une pause. On se retrouve, hein, tout de suite.
Je promets que je ne pars pas.
Ah, génial.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1.
15h33, la conversation entre Isabelle Morizet et son invitée Isabelle Nanty se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1. Isabelle Nanty à l'affiche de Faïm, aux côtés de Gérard Depardieu, l'occasion de parler eh bien, de son parcours et de son métier.
Alors Isabelle, on vous a quitté à l'instant dans cette classe du cours Florent dont vous étiez professeur, entouré de comédiens en devenir, qui avaient tous en commun, j'ai envie de dire, l'intelligence comique. Je cite Édouard Baird, Jean-Paul Rouve, Marina Foïs et Pierre-François Martin Laval, qui est le réalisateur de Faïm, qui sort mercredi. Bon, en réalité, vous dites, moi j'étais absolument pas leur prof, j'étais leur fan numéro 1. Alors, c'est ça?
Bah ouais. Oui, moi, j'ai jamais eu conscience d'être tellement professeur et de professer quelque chose. Par contre, j'avais la foi, et j'avais la foi en eux. C'est-à-dire, quand j'avais un coup de foudre artistique sur quelqu'un, bah, je pense qu'ils devaient le sentir, et du coup, j'étais le premier public. Et puis, d'avoir des gens qui vous aiment inconditionnellement, ça vous donne de la force. La liberté, elle se trouve dans l'inconditionnalité, je pense.
Alors, vous parlez de cet amour inconditionnel. Je vais rajouter qu'il est fidèle, parce que vous ne vous êtes jamais quitté avec tous ces artistes. Par exemple, vous avez fait tourner Édouard Baird dans le film que vous avez réalisé, Le Bison. Jean-Paul Rouve et votre mari dans la série archi-populaire au cinéma des Tuches. Pierre-François Martin Laval, alors, avec qui
j'ai
vous
fait
avez
5
partagé.
Films sur 6.
Mais voilà les aventures. Par exemple, allez, c'est pas exhaustif, de prof au cinéma et qui se révèle avec Faïm comme un réalisateur avec lequel il va falloir compter. Alors lui, c'est plus qu'un ami. Est-ce qu'on peut dire que c'est un frère?
C'est un presque frère, parce que je ne veux pas retirer sa place à mon frère Pascal, qui est mon frère. Mais c'est vrai qu'en tout cas, Pef, il est ma famille.
Je reprends votre histoire, Isabelle Nanty. On l'a dit tout à l'heure, Francis Huster vous a donné vos premiers rôles au théâtre. Et pas des moindres. Des rôles signés Shakespeare, signés Molière. Et puis au 90... un jeune cinéaste est venu vous chercher pour Tati Daniel, c'était Étienne Châtillièse. Et alors là, soudain, du jour au lendemain, on vous a estampillé comme un phénomène. C'est-à-dire que soudain, le cinéma s'est emparé de vous.
Ah oui, mais moi, je n'ai jamais eu conscience de tout ça. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas laissée accueillir. J'ai toujours fui, en fait,
vraiment
ce métier. Ouais. En fait, si j'ai accepté de faire tous les films ou les choses que j'ai faites, c'est par politesse. J'ai été bien élevée. Et alors, on ne dit pas non et tout ça. Mais sinon, moi, je me serais enfuie, je me serais cachée, je me serais... C'est très paradoxal, hein. C'est très tordu, hein, ce que je vais dire. J'avais choisi un métier, je rêvais de le faire, je le faisais, et en fait, je n'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir. Tellement, je sais pas, je ne me sentais pas légitime du tout. Et pourtant, j'avais un immense plaisir à le faire sur le moment, J'adore jouer, j'ai adoré jouer Tati Daniel et tout. Mais quand le film est sorti, j'étais pas là. je les ai laissés sortir
vous
le film tout seul. Je sais pas. J'étais en train de faire une mise en scène, je pense. J'étais en train de... je sais pas, j'ai pas eu conscience. On m'a dit que ça avait fait des entrées. Je savais même pas ce que ça voulait dire, des entrées.
Isabelle Nanty, de Shakespeare au Tuche, de Tchekhov à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, il est large, hein, le spectre. Votre maman vous répétait, Isabelle, sois toi-même. Alors, avec le métier de comédienne, en fait, vous contournez et vous respectez cette injonction. Vous dites, moi, je suis plusieurs moi-même. Mmh. Ça vous a offert ça, le fait d'être actrice?
Ouais, c'est ça. Parce qu'elle disait ça, elle disait, sois toi-même, et elle disait, il faut rester authentique. Alors d'abord, c'est très abstrait ce genre de choses quand on a 18 ans, 20 ans. C'est quoi être soi-même? On ne sait pas.
Déjà, on ne se connaît pas.
Bah, et puis on n'est pas terminé. On ne sera jamais terminé. Et authentique. Mais je pense que ce qu'elle voulait dire... Alors moi, je m'en suis sortie en essayant d'être vraie. Enfin, d'être juste. Juste avec ce que je ressens. Juste dans l'instant. Alors c'est pour ça que je suis quelqu'un qui n'est que dans l'instant.
Isabelle Nanty, est-il vrai que c'est Claude Berry, après avoir vu vos rushs dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui vous a proposé de réaliser votre propre film, un film qu'il produirait?
Ouais.
Donc c'est lui qui est venu vous solliciter?
En fait, si je fais la grande chaîne de ma vie...
On vous a toujours tendu une main.
Bah, c'est-à-dire qu'une chose m'a toujours amenée à l'autre. C'est parce que j'ai joué dans une pièce au Théâtre du Rond-Point, avec Aurore Clément, et que son ami Jean-Paul Scarpita et Florence Quentin sont venus voir que j'ai fait Tati Daniel. C'est parce que j'ai fait Tati Daniel que j'ai tourné ensuite avec Lelouch. Et c'est parce que...
Claude Berry vous dit, toi, tu es
exactement,
faite pour
à
être
chaque
cinéaste.
Fois, ça exactement. Quand j'ai, par exemple... J'ai travaillé avec Francis Huster, qui m'a présenté Jacques Weber. Et Jacques Weber, après... Grâce à lui, j'ai rencontré Claudie Haussard, qui était la productrice de Jean-Pierre Jeunet. Donc, c'est comme ça que j'ai fait...
Amélie Poulain.
Et tout. Il n'y a pas une chose qui n'est pas venue de quelqu'un d'autre.
Mais alors, tout de même, il y a une chose surprenante. Vous avez écrit Le Bison. Vous avez réalisé Le Bison, comédie loufoque et tendre qui a chamé tout le monde. Et puis, vous n'avez plus jamais réalisé de film. Pourquoi?
D'abord, j'ai été maman après.
Oui, mais il y a des cinéastes qui ont des enfants et qui continuent de tourner.
Oui, mais...
Vous allez dire que ce sont plus les mecs que les femmes, c'est
non, ça? Non, non, pas du tout. Si on est capable d'élever un enfant et de faire des films, c'est très bien de le faire. Moi, je n'en étais pas capable. Et j'ai préféré me concentrer et vivre ce que j'avais décidé de vivre.
Donc, vous avez décidé, c'est peut-être juste momentané, de ne plus réaliser de films. Et pareil pour la mise en scène. En 2017, vous avez mis en scène Danny Boone pour un spectacle qui lui a valu d'être nommé au Molière catégorie humour. Et Eric Ruff, le patron de la Comédie Française, vous a demandé de mettre en scène l'hôtel du libre-échange de Feydeau pour cette magnifique maison. Et vous avez déclaré à la fin de cette année glorieuse, vous avez déclaré, Isabelle Nanty, je ne ferai plus de mise en scène. C'est intriguant.
Oui, parce que cette année-là, mes deux parents sont décédés.
Ah. Je suis désolée.
Non, mais ça veut dire que pendant que... De toute façon, notre vie est comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais vivre pleinement quelque chose qui est épanouissant dans son métier sans qu'il y ait des choses de la vie qui vous ramènent sur Terre, hein, on va dire, ou sous la Terre. Et donc, j'ai pas pu m'occuper des miens comme j'aurais voulu parce que j'étais complètement accaparée par mon travail. Mmh. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de dire « je ne fais plus de mise en scène » pour avoir du vrai temps qui se dégage. ouais, parce que j'ai encore plein de gens que j'aime autour de moi. J'ai envie d'en profiter, j'ai envie de les voir vivre, de les aider. Voilà.
Europe 1. Je vous avais dit, tout le monde l'aime et on a bien raison de l'aimer. Isabelle.
C'est Isabelle, gentil, Isabelle.
Nanty.
Moi aussi, je vous aime.
Isabelle Nanty, qui est mon invitée et qu'on retrouve dans... Allez, une poignée de secondes.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1. Europe 1.
15h43, il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit sur Europe 1. Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit l'actrice Isabelle Nanty pour son film, la sortie du film Faïm.
Ne passez pas à côté de Faïm, le nouveau film de Pierre-François Martin Laval avec Gérard Depardieu, Assad Amen et l'irrésistible Isabelle Nanty. mon invité, voilà, Fahim, sort en salle mercredi. Isabelle Nanty, à vous dont on retient d'abord la drôlerie irrésistible, je pose cette question. Le rôle qui révélera toute la complexité et les méandres de votre vraie nature, vous l'avez approché ou pas encore?
Elle réfléchit. Je ne sais pas. Non, mais c'est sûr que l'envie de s'exprimer et d'exprimer quelque chose de fort change au fil des années, selon les événements et tout ça, et que j'ai toujours envie d'exprimer. C'est ça qui compte. Si je n'avais plus envie, j'arrêterais.
Il y a dans votre vie un amour absolu. C'est votre fille, Talula, que vous avez adoptée en Chine.
Et s'est adoptée.
Vous êtes adoptée, voilà, et j'aime la formule. Et Talula, elle a une personnalité hors du commun, elle a 16 ans. Et vous dites, être la mère de Frida Kahlo ou de Jeanne d'Arc, ça devait être quelque chose. Et bien avec Talula, c'est pareil.
Ouais, c'est une personne incroyable, Talula. Elle a une énergie qui est surhumaine. Elle est connectée à je ne sais pas quoi, à l'univers, à... Elle est un volcan, elle est un geyser, elle est...
Vous vous émerveillez de vivre auprès d'elle.
Ah non, mais elle est extraordinaire.
Et de l'observer grandir.
Ah mais elle est géniale. Moi je l'adore. Elle est... Enfin je l'adore, évidemment, puisque c'est ma fille. Mais en plus je l'adore. Comme... Parfois je la regarde comme si c'était quelqu'un... Enfin, de toute façon, elle m'a été... Elle est venue d'où ? C'est un don du ciel. Et c'est une sacrée responsabilité d'accompagner quelqu'un comme ça.
Oui, c'est une mission d'éduquer un
enfant. Oui, puis surtout de ne pas l'abîmer. Enfin, de la laisser continuer à sentir par elle-même ce qui est juste pour elle.
Il avait une très jolie formule, votre père, quand il parlait d'éducation. Il paraît qu'enfant, vous l'entendiez vous dire « Allez, passe devant et suis-moi ». C'est magnifique.
Oh ouais, j'adore.
Passe devant et suis-moi.
Ah oui, il avait des formules. Ah ouais, passe devant et suis-moi. C'est ça, hein. En fait. Il faut être derrière pour, en cas de chute, mais il ne faut pas boucher la vue, il ne faut pas boucher l'horizon de son enfant. D'ailleurs, les poussettes, je conseille aux mamans de mettre bien la poussette dans le sens de, que l'enfant voit vers où on va, et non pas vous regarde le pousser.
Bien sûr. Elle le regarde de quel œil, votre métier, Talula, Isabelle Nanty?
Je sais pas. Talula, elle est juste. Elle se laisse pas impressionner.
Ouais.
Ouais. J'existe pas par mon métier auprès d'elle. Hein.
Oui, vous êtes sa mère.
Ouais.
Voilà. Mais ce qui est quand même fou, c'est que Talula est née à l'autre bout du monde, donc en Chine, exactement le jour où vous avez filmé l'accouchement de votre personnage dans votre film Le Bison. Il y a de quoi s'interroger sur le hasard.
Ah non, mais je peux en faire une liste de hasards comme ça. Je pense que l'histoire peut s'écrire comme ça aussi. Hein. Les histoires, il y a des fils qui se rejoignent. Et enfin, on pourrait tirer des fils entre des événements. Et des... C'est incroyable. Je peux faire 3 heures là-dessus.
Isabelle Nanty, est-ce que ensemble avec Talula, vous êtes retournée en Chine?
Non, pas encore.
Pas encore?
Non.
C'est prévu?
Je la suivrai si elle a besoin que j'aille avec elle.
Elle en a envie?
Non, mais
ou pas?
C'est elle la chef. Hein.
C'est elle la chef, c'est vrai?
Non, mais c'est elle la chef de tout ça. Je veux dire, l'adoption, c'est une chose qu'on vit, effectivement, quand je dis on s'est adopté. Elle m'a adopté autant que je ne l'ai adopté, mais elle n'a pas choisi d'être adoptée. Donc, toute cette histoire lui appartient. Et comment elle veut aller sur le chemin de cette histoire, enfin, retourner vers ses origines, ça lui appartient entièrement. Elle sait très bien que je suis là, que je l'accompagnerai si elle en a envie. Mais sinon, si elle veut y aller seule. C'est intime, hein, tout ça. C'est pas mon histoire entièrement. C'est évidemment mon histoire, puisque c'est mon histoire de mère avec cet enfant-là et cette merveille. Mais c'est très, très, très... Enfin, quand on lit les livres sur les gens qui ont su mettre des mots sur ce qu'est le mystère des origines, et je me permettrai pas de mettre mon... Enfin...
En tout cas, moi, je me permettrais de dire que Talula a rencontré exactement la maman qui lui était destinée.
Oui, c'est ça.
Et on retrouve Isabelle Nanty. À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1.
Il est 15h52, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite est fin. Et oui, déjà, sur Europe 1, l'actrice Isabelle Nanty est l'invitée d'Isabelle Morizet.
Isabelle Nanty, on évoquait à l'instant la Chine, le pays où est née votre fille, où peut-être ensemble vous irez, vous retournerez. Le jeune héros du film que vous venez nous présenter, Fahim, lui, est né au Bangladesh, pays qu'il a dû fuir à l'âge de 8 ans car on le menaçait de mort pour la simple raison qu'il était un champion d'échecs. Fahim, après un parcours mémorable avec son père, est donc arrivé en France, SDF, sans papier, et la seule solution qui lui a permis de ne pas être expulsé, ça a été de devenir à 12 ans champion de France d'échecs. Et ensuite, d'ailleurs, un an plus tard, il est devenu champion du monde des scolaires. Cette histoire, elle est vraie. Il est venu sur le tournage,
oui.
Fahim, c'est vrai?
Bien sûr. Il est venu... Alors, Fahim, le vrai Fahim, il dégage exactement, lui comme personne, le ressenti qu'on a du film quand on en ressort. Il y a quelque chose d'extrêmement léger chez lui, de frêle, de fleur de peau. On a vraiment envie de le protéger. Il a un regard très intelligent. Il est assez solaire. Le vrai Fahim est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné aussi.
Et lui devait être impressionné par le fait de voir un jeune Bangladais de 12 ans incarner, en fait, sa vérité à lui, ce qu'il était.
Ça ne doit pas être si simple.
N'est-ce pas?
Non. Mais bon, par la force des choses, il ne pouvait pas lui jouer son propre rôle.
Bien
puisque
sûr.
C'était... L'histoire se passait 8 ans plus tôt, donc il est grand maintenant.
Alors, il est grand, il est en prépa HEC,
ouais.
Il est en prépa HEC, mais il vient seulement d'obtenir une carte de séjour qui n'est valable qu'un an. Donc, son parcours, en fait, n'est pas terminé.
Ben non.
C'est pas simple du tout.
Ben non, mais lui...
Alors qu'il a représenté la France au niveau le plus élevé, en étant champion du monde, voilà, d'échecs.
Ouais. Et lui se sent français, je crois, maintenant. Je ne veux pas parler en son nom, mais lui, il se sent français. Il a vécu une partie de son enfance et toute son adolescence. Je crois que c'est à Créteil qu'il habitait. Je pense que là, maintenant, il ne désire qu'une chose, c'est d'avoir la nationalité.
Alors, avec beaucoup de sagesse, Fahim s'est un peu éloigné des compétitions d'échecs au niveau international, car il paraît qu'il redoute la folie qui gagne certains grands champions. C'est impressionnant de lucidité pour quelqu'un de 18 ans qui a déjà été champion du monde il y a 6 ans. Mmh. Le fait de dire « Allez, je prends de la distance avec ça », alors qu'il est un pur génie face...
Je pense que c'est une histoire de survie aussi. Il a vécu la survie, déjà. Donc, il a un instinct formidable de ça. Donc, la survie, c'est aussi de ne pas devenir fou.
Il vous tient à cœur, ce film, Fahim?
Oui. Il me tient à cœur parce que je pense vraiment que c'est important que les gens s'interrogent sur la peur. Moi, je crois que la peur, c'est ce qui engendre toutes les mauvaises choses. La peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur d'être envahi, la peur de ne plus maîtriser sa capacité d'accueil aussi. Alors que je pense que c'est une richesse. Toutes les personnes qui arrivent et qui ont quitté leur famille, leur mère, leur femme, qui ont traversé des pays pour vivre, en fait, une liberté dans des démocraties, ce n'est pas des gens qui ont choisi de juste survivre en France. Ils sont venus pour vivre. Donc, je pense que c'est important, une fois que ces gens-là sont là, de les accueillir. Et beaucoup de choses sont faites, hein, mais pas assez. On a peut-être été un peu dépassés et même les associations ou les services sociaux manquent de moyens et tout ça est arrivé peut-être un petit peu vite. Mais je pense qu'il faut ouvrir notre cœur et notre capacité d'accueil.
Alors, vous nous donnez rendez-vous donc dès mercredi en salle avec Fahim. Vous y êtes entouré, Isabelle Nanty, d'Assad Ahmed, qui incarne Fahim, le jeune Bangladais sans papier, SDF, qui va devenir champion de France d'échecs. Et vous êtes face au magnifique Gérard Depardieu. Merci infiniment, Isabelle.
Et merci à vous, Isabelle.
Je vous embrasse, Isabelle.
Merci.
À bientôt.
Merci.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Demain, Isabelle Morizet recevra une autre comédienne, Anna Mouglalis. Elle est Mademoiselle Julie, jusqu'au 3 novembre, au Théâtre de l'Atelier à Paris. Dans un instant, la bonne humeur de Mathieu Noël et son équipée sauvage. C'est juste après les infos de 16h sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.